Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club en direct du studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. 22h, 23h, à podcaster évidemment. C'est le rendez-vous de toute la scène française inclusive au maximum. Ce soir, bienvenue dans la légende. Rock'n'roll attitude et scène underground avec nos deux invités. Little Bob, bonsoir.
Bonsoir.
Et Arnaud Le Goué-Fleck, bonsoir à vous.
Bonsoir.
L'un vient du Havre, l'autre vient de Bretagne. Little Bob qui aligne plus de 50 ans de carrière signe son 23e album, We Need Hope, du rock sans compromis avec des ballades en mémoire d'une longue et belle histoire d'amour et des reprises d'hymnes à la liberté. À ses côtés, Arnaud Le Goué-Fleck, fanatique des faces B et des séries Z, se lance dans une histoire underground de la musique avec un roman graphique construit comme une galerie en noir et blanc de portraits de rockers maudits, de prêtresses du son, des personnages dingues, fous parfois, des passionnés, des marginaux, des outsiders et des stars parmi lesquels Moondog, Brigitte Fontaine, Peter Rivers, Ima Sumac ou Sun Ra. Marion ?
Sa sortie en 1992 a bouleversé le paysage musical français. La Fossette de Dominica, décortiquée, analysée, commentée dans un livre signé Pierre Lemarchand et Thierry Jourdain. On sera en ligne avec ce dernier vers 22h30.
Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. On entend tout. Bienvenue au club.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Et on ouvre tout de suite sur un au revoir Auf Wiedersehen signé Mansfield Tia et je vous conseille le clip. Rebecca Warrior et Carla Pallone s'y mettent en scène en cato qui se révoltent face à l'ordre établi, le tout dans une imagerie très queer, pas vraiment ecclésiastique.
Je ne me retourne pas, ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème, non. Tu ne me laisses pas le choix, ça n'est plus mon problème. Dorénavant, il ne te reste que ma voix. Amen et Auf Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème. Ça n'est plus mon problème.
Rebonsoir à Little Bob et Arnaud Le Goué-Fleck au studio 621 dans Côté Club. Est-ce que vous vous connaissez, j'imagine, au moins de réputation, non ?
Bah moi, je connais Little Bob, évidemment.
Quand même, j'imagine.
Je pense pas que, par contre, il
Non, je connais Brest.
Ouais, parce que vous vivez à Brest, donc Arnaud, voilà. Ouais. Mais pas plus que ça. Et vous le connaissez, bien sûr. Il aurait pu figurer là-dedans, dans votre bande dessinée sur les rockers maudits underground.
Absolument. Moi, j'ai découvert Little Bob sur une compilation qui s'appelait Les plus grands succès du punk. On en discutait tout à l'heure, justement. Même si c'était pas punk, Little Bob Story.
Non.
C'est sur cette compile que j'ai entendu pour la première fois High Time de.
Ouais, c'était une compile de punk par Skydog, la boîte de...
De Marc Zermati.
Ouais, de Marc Zermati, qui est disparu aujourd'hui.
Et, oui. Et pourquoi on vous associe au punk?
Parce qu'on tournait en Angleterre...
Ah ben ça oui, dans les années 70.
Au moment de l'explosion punk. Juste avant, en fait. Et j'avais pas mal de musiciens punk qui venaient nous voir jouer, parce qu'ils trouvaient qu'on jouait bien.
Ouais, vous aviez toujours des bons musiciens hein, avec vous.
Comme ça, ils pouvaient apprendre à jouer un peu.
Ah oui, d'accord, bien entendu. Little Bob, donc, notre rocker national du Havre. Plus de 50 ans de rock'n'roll, jamais dévié, avec aujourd'hui un nouvel album, We Need Hope, on va en parler. Une carrière qui explose, on vient juste de l'évoquer dans les années 70. En 71, création de Little Bob Story, votre groupe.
Et mais on était amateurs encore à l'époque.
Encore à l'époque.
Même si on répétait beaucoup. Et on jouait le week-end, mais c'était comme jouer au hobby. Ça n'a rien à voir avec le fait de devoir gagner sa croûte et se défendre en professionnel.
Et ben justement, le groupe va exploser avec un premier album en 76, que vous citiez à l'instant Arnaud Le Goueffleck, qui va vous valoir le respect de la scène anglaise, extrait de « High Time ». On est en 76, c'est ce son que vous identifiez, Arnaud Le Goueffleck, quand vous entendez cette cassette sur la compilation punk.
Bah c'est, oui, ça. C'est ça. Et l'influence, on en discutait aussi tout à l'heure, du MC5, en 50 ans là.
Ouais, très 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 rock'n'roll, radical et plutôt libre.
Et puis en Angleterre, dans ces années-là, il y avait Dr. Feelgood, il y avait les Inmates, et ça c'était vraiment des groupes avec lesquels vous avez partagé des scènes.
Oui, on a partagé énormément de scènes, de festivals, on a fait des gros concerts, même à la Roundhouse de Londres, avec Motorhead aussi.
Oui, c'était énorme.
Et on jouait comme on était les derniers arrivés, on jouait en premier. Et donc, on jouait tout le matériel. Il y avait les Stranglers derrière nous. Il y avait Motorhead en vedette.
Donc ça veut dire que la scène était bourrée d'instruments, j'imagine.
Voilà, tous les instruments de tout le monde. Et moi, je me suis retrouvé avec mes boots sur le bord de la scène. et j'avais le derrière presque sur la batterie de mon batteur, quoi.
Alors, les débuts ont été plus que prometteurs. Ça a explosé en Angleterre. Et puis pour vous, ça a toujours marché. Vous êtes toujours là, mais vous auriez quand même pu faire plus. Qu'est-ce qui a coincé, d'après vous, pour que vous stagniez à un moment donné? On est quand même à la fin des années 70. Les groupes français vont exploser. Téléphone, Star Shooter, Bijoux. Pourquoi pas vous?
Mais c'est simple, ils chantaient en français.
Ah, vous aviez fait le mauvais choix?
Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours fait le même choix qui est le bon. Parce que je pense que le rock'n'roll et le blues sont mieux envoyés en anglais.
Voilà. On vous a demandé d'écrire en français, j'imagine?
Oui, bien sûr.
Vous avez résisté?
Après, j'ai carrément été coupé les ponts, quoi. J'étais chez EMI à l'époque de la sortie d'un album qui s'appelait Lost Territories, qui est un très bon album que j'avais enregistré à Los Angeles avec des musiciens américains. Et j'avais fait une émission qui dure encore aujourd'hui, où j'avais été invité par Powo.
Ah bon?
Ah ben oui.
Et je chantais en français.
Taratata. C'était un duo dans Taratata avec Powo. Et vous chantiez en français.
C'est trop dur. Ouais. Donc je travaillais, c'est trop dur. Je pouvais chanter en français. Et puis le directeur artistique, quand je suis sorti de scène, il m'a dit: tu vois, tu peux chanter en français. Donc il dit: il n'y a pas écrit débile mental ici là, sur le front. Donc il n'y a pas de problème, mais ils ont voulu que je chante en français, j'ai pas voulu, donc
voilà. Ça vous a mis à l'écart du monde de la musique, enfin de l'industrie musicale?
Oui, parce que quand j'ai essayé de signer après avec les chansons qui ont suivi, ça n'a pas marché chez eux. Et j'étais écœuré, donc je me suis dit plutôt que de chercher un autre label, je vais produire les disques moi-même. Et puis on avait été distribué par Dixie Frog à ce moment-là.
Et ça a marché puisque 23 disques en plus de 50 ans de musique, ça tient vraiment la route. Arnaud Le Goueflec, alors vous, ça part dans tous les sens, mais avec des obsessions dans les sujets abordés. Vous êtes romancier, auteur de BD, avec même un album consacré aux frères de Göring. Vous êtes auteur de chansons, directeur de festival, de label particulier, on y reviendra. Vous êtes musicien, vous avez collaboré avec Dominica, Eugène Chadbun, Olivier Mélano... Plusieurs albums. Le dernier, c'était en 2020, c'est ça ? L'Orage, extrait.
J'ai mis à gauche une part du gâteau, ta part du magot. Fais-en bon usage. Fais-en bon usage. Ouvre-le dans la feuille.
Alors, ce parcours de musicien, est-ce que c'est un parcours de musicien underground à la hauteur de vos passions pour les marginaux outsiders à qui vous avez consacré pas mal d'ouvrages ?
Bon, c'est pas trop une question que je me suis posée vraiment, mais en tout cas, c'est nourri par une fascination certaine pour des figures un peu too much, des personnages un peu bigger than life comme ça. Où ça m'a toujours fasciné et puis rassuré un peu sur la vie, quoi, de savoir qu'il y a des gens comme Sun Ra ou Eugène Chadbourn qui ont pu exister. Ça m'aide à me lever le matin. Ça, je trouve que c'est un antidote au conformisme.
Sun Ra, peut-être qu'on peut, pour ceux qui ne connaissent pas, il est présent dans le livre, on en parlera tout à l'heure. Sun Ra, peut-être un portrait en quelques minutes. Vous voyez qui c'est, vous, Sun Ra ?
Oui, bien sûr. Même Jimi Hendrix était fan.
D'ailleurs, il y avait une reprise de Sun Ra sur le premier MC5. Il y a Starship, c'est un thème de Sun Ra. Sun Ra, c'est le jazzman cosmique qui a toute sa vie, volontairement en marge, a construit une œuvre phénoménale. On ne sait pas très bien combien d'albums il a fait, entre 200 et 300 sûrement, et qui menait un orchestre tribal qui s'appelait l'Orchestra, qui gérait, qui était autogéré de façon communautaire. Et c'est quelqu'un qui était doté d'un solide sens de l'humour, qui était souvent déguisé en pharaon cosmique.
Exactement, ouais.
Et qui a traversé toutes les évolutions du jazz, en fait, hein, du Dixieland quasiment jusqu'au free, avec toujours le même sens de l'humour et toujours en ne parlant que d'une seule chose, le cosmos.
C'était vraiment son sujet.
Son sujet.
Tout de suite, on entre dans le nouvel album de Little Bob avec cet extrait. We Need Hope, c'est le titre de cet extrait et c'est le titre de l'album.
We need hope for a change. Everything is going wrong, down, down bad. We need hope and a big change. Gotta break down the codes of this mad, mad world. We need a change.
Even if all the people is on the
Hope, c'est le titre qui ouvre l'album du même nom, signé Little Bob. Vous êtes en gros plan sur la pochette avec des lunettes noires, un côté même Philippe Manœuvre, quand j'ai regardé la pochette. Vous voyez de quoi je parle ?
Oui, oui, non.
Ouais, ouais,
oui, je crois pas.
Un petit peu quand même.
J'ai jamais rencontré cet homme.
Si, je l'ai rencontré, bien sûr.
Bien sûr.
Nouvel album donc.
D'ailleurs, je regrette qu'il manque beaucoup à Rock'n'Folk.
Ah oui ? Vous trouvez que ça a baissé depuis qu'il est parti ?
Oui, parce qu'il était plus rock dans l'esprit.
Vous voulez être resté un rock dans l'esprit.
Ah oui, dans l'esprit et même ailleurs.
Et même ailleurs.
Ouais.
Donc, nouvel album avec vos acolytes, les Blue Bastards. Vous avez reconnu juste...
Blues Bastards.
Vous avez reconnu un musicien, c'est ça?
Ben, l'harmoniciste s'appelle Mickey, et il est brestois.
Il est brestois, ouais. D'accord. Ça reste
en fait, il est parisien et qui vit à Brest.
Il vit à Brest.
Alors, Little Bob, vous avez tourné partout dans le monde hein, avec votre groupe Little Bob Story. Vous faisiez un carton en Angleterre dans les années 70, on en a parlé. Vous auriez pu quitter Le Havre, la France, vous installer à Los Angeles quand vous vous êtes produit. Qu'est-ce qui vous a retenu au Havre ? Est-ce que c'est la peur vraiment de ne pas avoir de place ailleurs ?
Non, parce qu'en tournée en Angleterre, on a vraiment fait environ 350 concerts
c'était
en
énorme,
4 ans.
Ouais.
Et des tournées du style 25 concerts en un mois, tu vois, c'était incroyable. Mais à un moment, on m'a dit, pourquoi tu restes pas à Londres,
oui.
Voilà, avec ton groupe. Bon, j'étais au milieu d'un groupe, et le groupe voulait pas forcément... Déjà, il y avait un très mauvais café à l'époque.
Ouais.
Et puis, j'avais ma famille au Havre, puis j'aime bien le Havre, j'aime bien le port, avec le port, on peut aller partout. Hein. Et Paris n'est qu'à 2 heures, on a mis 2 heures pour venir ce soir. Et quant à Los Angeles, j'ai plein d'amis musiciens aussi qui ont joué sur l'album Lost Territories,
ouais.
et celui précédent qui s'appelle Rendezvous in Angel City, et qui des gens qui ont joué comme Mick DeVille avec Willie DeVille, comme Steve Hunter qui a joué avec Lou Reed, Alice Cooper et Mitch Ryder. Enfin, que des gens comme ça, quoi. J.J. Holiday qui joue maintenant encore super. Vraiment, ils sont restés pas mal d'amis.
Mais vous êtes resté au Havre.
Bah non, mais je suis revenu au Havre, puis j'avais ma douce avec moi.
Bah
à ce moment-là.
Et justement, la douce qui est au centre de cet album, on va en parler. Alors, le Havre, c'est vraiment une ville dont vous êtes devenu le totem. Hein, c'est ce qu'on dit Édouard Louis, qui est un de vos fans.
Non, Édouard Philippe.
Édouard Philippe, oui. Édouard Louis, c'est autre chose. Édouard Louis, c'est un auteur. Exactement.
Ouais.
Édouard Philippe, vous le rencontrez souvent
roi. Il n'est pas encore roi.
Non, hein. Pas encore.
Non, en ce moment, je ne le rencontre pas, non.
D'accord,
non.
Parfait. Quand il était à Matignon, vous l'aviez rencontré, vous aviez fait un concert, je me souviens.
Oui, il m'avait dit bonjour au moment de la balance, devant la scène,
ouais.
Il m'avait fait un petit signe, et je lui avais dit bonjour, monsieur le maire.
Mais oui, parce qu'il était resté pour vous, toujours le maire du Havre, d'ailleurs, il est retenu, il est revenu, vous aviez vraiment l'œil à l'époque. Alors, une ville associée à votre nom jusqu'à en devenir un héros dans un film, en 2011, Aki Kaurismäki vient vous voir, il fait un film... sur le Havre. Vous serez dedans avec votre douce. Extrait, vous êtes dans un bar tout seul, au comptoir, et André Wilms vient vous voir, il a quelque chose à vous demander.
Cher monsieur Bob, j'ai profondément conscience que vous avez eu des conflits avec votre femme. Mais j'ai mes raisons pour organiser un gala de bienfaisance à la mode. J'ai besoin de votre aide, cher monsieur.
D'accord, mais seulement si Mimi revient. Sans elle, ma voix manque de substance. Et puis, elle est le manager de mon âme.
Et pourquoi vous êtes-vous disputé ?
Oh, quelque chose d'insignifiant. Faut qu'elle sache, faut qu'elle comprenne. Qui est l'homme dans la maison, ça peut pas être elle.
Si j'arrive à la convaincre de revenir, seriez-vous prêt à lui faire des excuses?
Je suis même prêt à danser le menuet.
They arrive in this town where the sky is gray, the wind so strong. It is familiar work that did nobody wrong. We were all found some work in a copper factory.
Alors, dans ce film, pour ceux qui n'ont pas vu, Mimi revient, hein, dans le... Et puis là, c'est une scène avec la musique qui apparaît.
Voilà. C'était... Qu'est-ce qu'elle était jolie, là.
Toujours jolie. Les gens restent.
Ah oui.
Et là,
les souvenirs.
Et dans le film, on vous voit sur scène en train d'interpréter justement ce titre, Libéraux. Libéraux, c'était en l'honneur de qui?
Mon père. C'était mon père, s'appelait Libéraux, et était fils d'anarchiste, doux. Mais anarchiste tout de même, à l'époque, avec Mussolini et tout ça. Et puis, il y avait un nom qui n'était pas dans le calendrier catholique italien.
Ben oui, libéraux, non. Hein.
Voilà. Mais ça veut dire libre aussi. Et lui m'a dit, il a travaillé comme ouvrier métallurgiste après avoir été commerçant en Italie.
Il était commerçant en Italie et puis il va arriver au Havre en 1958.
Il y a eu faillite et refaillite et il n'était pas commerçant lui.
Dans l'âme,
c'était
ouais.
Son père qui l'était. Et il a pris la suite, il s'est planté, mais alors...
En beauté. Hein.
Et puis il a fait main de boulot en Italie et puis en fait il a accepté de venir au Havre.
En 58.
Voilà, travailler dans la métallurgie. Et donc, on l'a suivi avec la famille. Et heureusement, je ne sais pas ce que j'aurais fait en Italie. En même temps, j'aurais peut-être pas pu faire mes groupes de rock'n'roll dès le départ. Dès l'âge de 16 ans, faire mes groupes, les Apaches, et après, Red Devils. Et...
Alors même que le rock, vous l'aviez déjà écouté et découvert en Italie. Vous n'avez pas attendu la France pour découvrir le rock.
Ah, j'étais comme un dingue. J'en ai même écrit un morceau pour le nouvel album qui s'appelle I Was a Kid. Et en fait, j'allais au cinéma, il y avait les premiers films des rockers américains, avec Presley avant qu'il se fasse acheter par le colonel Parker et donc détruire. Avec La Blonde et moi, où il y avait Little Richard, Eddie Cochran et toutes ces merveilles. Ah là là là, moi j'étais fou quoi, j'étais fou, je dansais dans... Et il y avait des ouvrages comme à 13 ans, on me donnait 8 ans, tellement j'étais petit. On me disait, petit, va t'asseoir. Ouais.
Alors aujourd'hui, ce lien avec votre père, votre grand-père, l'anarchisme et l'Italie refait figure avec la reprise d'un hymne antifasciste, Bella Ciao, extrait. Alors, il y a ce titre qui fait référence à l'Italie. Il y a un autre titre en italien, Il Bello della Vita, qui raconte l'amour pour Mimi Piazza, votre compagne.
C'est ça.
Mimi est décédée en 2019. Vous l'avez dédié cet album. Et deux ballades vraiment formidables. You Can't Come Back et Made For Me. Et quelque chose d'ailleurs a changé dans la voix. On entendra tout à l'heure un extrait de Made For Me. Et quelque chose qui change dans la voix quand vous chantez quelque chose en rapport avec Mimi.
Ah ouais, rapport direct.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé dans la voix?
L'émotion, quoi. L'émotion qui est à fleur de peau. You Can Come Back, je ne sais pas si je pourrais la chanter en concert, pourtant elle est belle.
Hein. Eh bien, on écoute tout de suite un extrait de You Can't Come Back.
I know you can't come back. Even I feel we are together forever. I know you can't come back. Baby, I'm sorry when I cry.
Très belle balade. L'autre est belle aussi, hein, Made For Me. Mimi, vous l'avez rencontrée quand? où et à quel moment de votre parcours, Little Bob ?
En 86, le 1er octobre 86, et entre deux tournées avec mon groupe, je chantais du blues et des ballades, mes ballades à moi, ouais. Quelques Tom Waits aussi, et quelques standards du blues avec un pianiste de jazz. On nous avait réunis et ça avait marché. Et donc, je faisais une semaine de concert de temps en temps avec lui. Et on avait joué à Issy-les-Moulineaux. Mimi était parisienne. Elle avait amené une amie et elle devait aller faire du yoga après. Puis son amie lui a dit, mais reste, tu vas voir, c'est très bien. Et puis elle est restée devant quoi, 3 mètres de moi, dans la salle, devant. Et lors de son enterrement, son amie m'a dit... elle me l'avait jamais dit avant. Elle m'a dit, ça faisait une heure que tu chantais tes balades et tout ça. Elle ressentait tellement l'émotion que tu dégageais. Et elle m'a dit, c'est lui que je veux. Voilà. Puis en fait, elle m'a eu. Elle a mis un mois et demi à me trouver, mais.
Mais elle vous a eu. Ouais. Et ça a duré jusqu'en 2019.
Bah, 32 ans ensemble. Ouais.
Quel rôle elle avait ? Un rôle central, en fait.
Elle faisait mon tour manager.
Ouais.
Et elle conduisait des fois le minibus avec tous les gars dedans. Et tout le monde la respectait.
Ah, mais c'était
évidemment.
Une meneuse de troupe, ouais. Ah.
Non, elle était plutôt cool, sympathique, tranquille. Et en même temps, elle travaillait avec moi, elle tournait Internet, par exemple. Elle me disait, toi, tu penses à ta musique et moi, je m'occupe de tout ça. Des fois, même le soir. Au moment où elle travaillait, moi je lui faisais à manger. Et je me débrouillais bien, je suis rital, donc voilà, je sais.
Cuisiner.
Ouais.
On va continuer tout de suite avec vous, Little Bob et Arnaud Le Goueffleck. Vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Marion dans quelques instants. Mais tout de suite, on retrouve Anna Jean, Soigny Elzingre et Samy Osta. C'est le trio de juniors qui se fait des cheveux gris, bleus et noirs comme les reflets dans le miroir, dans Côté Club.
Ses cheveux. Tempo
côté club
140 BPM
côté club
et la vie elle a un tempo
sur France Inter.
Des cheveux, elle en a plein, elle en a trop.
Je m'en fais des Guilbeault. Cheveux, je m'en fais avec vous Laurent. Disque de rupture sentimentale, de rupture esthétique aussi. La Fossette de Dominica est entrée dans nos vies en 1992. Sur cette antenne, c'était grâce à Bernard Lenoir. Disque culte au point que Thierry Jourdain et Pierre Lemarchand lui ont consacré un livre. Bonsoir Thierry Jourdain.
Bonsoir.
Bienvenue dans Côté Club avec Little Bob et Arnaud Le Gouët-Fleck. Vous vous connaissez ?
Non. Alors, Little Bob, je le connais bien évidemment hein, de réputation et de renommée. Hein, de Rouen, on va souvent au Havre, et donc voilà, j'ai pu souvent voir le rock de Little Bob. Ouais.
Mais moi, je viens souvent à Rouen, on répète à Rouen au garage chez Musique Mélodie. Mm.
C'est ça. Et Arnaud Le Gouët-Fleck, vous avez au moins un tropisme commun, hein. C'est donc Dominica. Vous connaissez, j'imagine, sa bande dessinée, J'aurais ta peau, Dominica, Thierry.
Bien sûr, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr.
Alors, vous consacrez avec Pierre Lemarchand un petit livre très dense hein, sur un album culte de la discographie de Dominica, c'est La Fossette. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous l'avez entendu, ce disque ? Vous étiez déjà dans la musique à l'époque ?
Alors moi, La Fossette, j'ai récupéré un peu mon retard, en fait. Quand il est sorti, en 1992, j'étais bien loin d'écouter... 91, pardon, et après... j'étais bien loin d'écouter, en fait, Dominica et toute cette mouvance de chansons françaises. J'étais vraiment dans l'américain et le rock anglo-saxon. Et donc, j'ai découvert Dominica bien après, il y a 10 ans après, voilà, avec Augury. Oui, et ça a été un coup de foudre monumental, et j'ai acheté toute la discographie d'un coup de Dominique, en fait, en récupérant tout ce retard. Et il m'a fallu des années pour décortiquer, me plonger dans son œuvre. Et La Fossette, en fait, a été un des derniers disques que j'ai vraiment écumé, découvert. Et depuis, c'est devenu évidemment mon disque fétiche qui m'a accompagné depuis beaucoup de temps.
En quoi il était totalement anachronique dans la production française de l'époque, ce disque ?
C'est déjà l'un des premiers disques à avoir été fait à la maison, avec les moyens donc qui sont démocratisés, donc un 4 pistes cassette. À l'époque, ça se faisait très peu. Il y avait très peu d'artistes en fait qui avaient ce matériel-là chez eux. Miossec, Philippe Catherine et donc Dominica. Donc déjà dans ce traitement-là, il y avait déjà quelque chose qui sortait des sentiers battus et donc qui n'a pas été fait en studio.
Vous racontez hein, ouais, que Dominica refusait de mettre les pieds dans un studio professionnel. C'est un disque qui est vraiment marqué par les premières prises, les accidents, les imprévus, comme sur ce titre.
Quand tu me parles bas, nous avançons peut-être.
Sous la neige, Thierry Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé sur l'enregistrement de ce titre hein? Avec ce
Alors une superposition, la magie en fait de l'enregistrement cassette, en fait une superposition de sons, de couches. En fait, Dominique réenregistre par-dessus des pistes déjà enregistrées, et donc il le découvre, il l'écoute au moment du mixage, et il choisit de garder en fait l'erreur pour en faire finalement une force et l'assumer.
C'est une chose aussi très importante sur ce disque, c'est qu'il est chanté en français. Et ça, c'était presque une hérésie hein, dans le milieu dans lequel Dominica évolue à l'époque, un milieu qui ne jurait que par le rock anglo-saxon indépendant. Le milieu où vous évoluez, vous, d'ailleurs.
Oui, et c'est ça qui est assez, troublant, c'est que Dominique lui-même, en fait, alors même s'il a évidemment tout un pan de la variété française qu'il revendique, et ses premiers groupes de cœur, en fait, viennent voilà, du post-punk et de la new wave. Donc, il a digéré en fait toutes ces influences avec le paysage français de l'époque, et ce disque hybride est né comme ça d'un mélange de genres et de références.
Alors, Dominique a dit qu'il y a une faute de goût, selon lui, sur La Fossette. C'est une chanson qui s'appelle Mes Lapins. Il regrette également l'absence d'une autre chanson, c'est L'Attirance, qui sera rajoutée sur la réédition de 2012. Mais par contre, une chanson qui est sur ce titre, c'est le fameux Le Courage des Oiseaux. Et vous rapportez une discussion avec Vincent Chauvier, le fondateur du label Lithium, qui insiste sur l'importance de ne pas ouvrir le disque sur ce tube de poche. Racontez-nous pourquoi.
Alors, Pierre, donc mon camarade Pierre Lemarchand, en fait, a rencontré Vincent, donc c'était aussi une grande joie pour nous d'avoir pu avoir le créateur donc du label Lithium. Et donc en fait, Dominique fait plaisir à Vincent, voilà, parce que Dominique est toujours un homme d'une gentillesse et d'une générosité sans borne, et finalement il choisit de mettre des titres qu'il aurait peut-être pas voulu initialement, comme Mes Lapins, et d'autres qui n'étaient peut-être pas forcément prévus, comme Le Courage des Oiseaux, qui finissent par s'y retrouver.
Merci beaucoup Thierry Jourdain. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dominica, La Fossette. C'est dans la collection Discogonie aux éditions Densité. Et nous, on va conclure cet entretien avec ce tube de poche, Le Courage des Oiseaux, dans Côté Club.
Que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous
Courage des Oiseaux, Dominica, un bruit sourd après La Fossette. Arnaud Le Gouéflec, ça a été la porte d'entrée pour vous, ce disque de Dominica, vous qui lui avez consacré une bande dessinée, J'aurai ta peau, Dominica.
Bah oui, parce que c'était la première fois qu'un chanteur français faisait ce genre de choses, c'est-à-dire enregistrer un disque sur 4 pistes, avec ce minimalisme volontariste. Et pour nous qui étions tous biberonnés au disque de Daniel Johnston, qui était le grand pionnier du genre, chanteur américain, qui avait vraiment...
Du lo-fi, ouais.
Voilà, le grand créateur de la lo-fi, c'était l'affiliation était évidente, et en même temps, il arrivait à renouveler tout ça, et surtout à le faire en français, en faisant sonner le français.
Peut-être un mot sur l'homme dont vous venez de parler, puisqu'il figure bien entendu en deuxième position dans votre livre Underground.
Daniel Johnston, c'est quelqu'un qui a un problème, enfin qui avait un problème psychologique, psychiatrique même. Il souffrait de maniaco-dépression, donc ça l'a pas aidé.
Diagnostiqué schizophrène aussi.
Voilà, hein. Diagnostiqué schizophrène aussi. Donc il a eu un parcours très difficile. Et comme il n'avait pas évidemment accès au studio, il pouvait pas être les Beatles, mais il aurait bien aimé.
Je veux être les Beatles.
Donc il a commencé à enregistrer ses propres cassettes dans la cave de ses parents. Et petit à petit, finalement, il a une particularité, c'est qu'il était capable d'écrire des chansons qui touchaient droit au cœur, ce qui fait que j'ai toujours l'impression que c'est un peu le Bob Dylan de notre génération, avec évidemment un côté psychotique en plus, mais c'est quand même des chansons aussi magiques. Aussi
puis très émouvant sur scène, très émouvant, quand on voilà. Le voit, oui, vraiment ce côté-là.
Voilà. Arnaud Le Goueffec, donc il co-signe avec Nicolas Loug cette bande dessinée Underground qui a fait un tabac au bureau. Stéphane, le réalisateur, a gardé l'original. Moi, je n'ai eu droit qu'aux épreuves, mais ça m'a permis quand même de bosser. Sous-titre, rocker maudit et grande prêtresse du son. Et c'est pas la première fois que vous vous intéressez, Arnaud, au destin et à la personnalité d'outsider grandiose de la musique, que vous donnez cours à votre passion pour les face B, les personnages atypiques. En 2011, vous aviez déjà signé Le Chanteur sans nom, une oui. BD que je connais, qui était inspirée de Roland Avelis. Vous voyez qui était Roland Avelis, Little Bob ?
Non.
Non, ça je pense pas, non.
Bon, c'était un chanteur de charme un peu à la Tino Rossi.
Mais les années 30, voilà, 40. Mais, voilà, très bizarre.
Très bizarre, ouais, qui était masqué d'un loup noir comme Zorro, et qui est donc, a disparu de la circulation. Et en retrouvant sa trace, j'ai mené toute une enquête pour pouvoir savoir qui se cachait derrière le masque. Et
c'était un escroc, un voleur, menteur.
C'est un personnage très complexe, comme nous tous. Hein.
C'était la période
d'Edith Piaf. Hein.
Ouais, c'était avec la période d'Edith Piaf, ouais. Charles Aznavour.
Mais c'est un personnage très attachant et puis bon, c'était une figure tout à fait hautement fascinante.
Je peux imaginer. Aujourd'hui donc, c'est Underground chez Glénat, une galerie de portraits de rockers, de chanteuses, de personnages flamboyants, clochards célestes, psychopathes absolus, qui ont construit une histoire de la musique. Vous pensez que vous pourriez y trouver qui, par exemple, dans ce livre ? Qu'est-ce que vous chercheriez comme personnage étrange, Little Bob ?
Bon ben là, je suis sur une bonne page, puisque c'est la page des New Yorkais.
Les New York Dolls.
Bah, les Ramones, télévision, Blondie, New Super. York Dolls. Et New York Dolls, les Ramones, je les ai vus à Londres. Blondie, on avait fait un festival ensemble avec les Kings en Belgique. Et les New York Dolls, bah, y avait Johnny Thunders, Heartbreakers, qui tournait en Angleterre. Et on a même buffé avec Johnny Thunders. Il était venu sur scène avec nous, chanter. Et il voulait même me piquer mon chinois, Guy George Grammy, le guitariste, parce qu'il était tellement bon. Et en fait, il préférait jouer avec nous. Donc, il a buffé avec nous. Il était fait comme un rat. Il était toujours prêt à y aller. Attends, viens au rappel. Hein. C'était au Dingwalls à Londres. Je me rappelle d'un sacré rappel avec lui. Ouais.
C'est marrant, donc c'est presque un album de famille pour vous, cet album. Oui. Arnaud Le Goueffec, justement, sur cette scène-là, qui est au centre d'ailleurs, que vous avez placé au centre de ce livre.
C'est-à-dire qu'il y a une grande variété d'influences. Enfin, oui. Il y a tous les genres musicaux, si vous voulez. Oui, ça va de la chanson française au rock'n'roll.
La chanson française, c'est Bobby Colette
Mani,
bien sûr. Brigitte Fontaine. Boris Vian, ouais. Brigitte Fontaine à la fin de l'album, c'est vraiment super.
Mais il y a aussi un peu de métal, parce que
sinon c'est pas drôle.
Il y a un peu de black metal tant qu'on y est, et puis il y a un peu de punk, il y a un peu. Voilà, il y a
et
un
même
peu
vous, on y reviendra. Alors, notre réalisateur a élaboré une bande-son de cette bande dessinée avec les héros et héroïnes qui s'y trouve. Ça commence par Moondog, ça va s'achever par Peter Rivers, comme dans le livre. Vous nous présentez d'abord Moondog.
Moondog, c'est un des plus grands compositeurs américains du XXe siècle, mais il était aveugle, il était clochard et il était déguisé en viking, ce qui fait qu'il a passé la plupart de sa vie au coin de la 6e avenue, pris pour un excentrique. Dans une certaine mesure, mais derrière le pittoresque du personnage, il y avait cette grande capacité. Il a influencé Steve Reich, il a influencé Philip Glass, il a influencé les Minimalists. C'est un des plus grands compositeurs américains, mais il avait pris un chemin de vie très différent des autres, quoi. Thank you.
Yesterday, you told me we were through.
I cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all I can see.
La 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 la. Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre? La, la, la.
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation.
Je suis des brigades d'intervention. Pression, pression, pression.
I get the people what they want, but that which has been done is a very human ideal.
La faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée.
In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You got your good things and I've got mine.
Alors il a bien bossé Stéphane Le Guenec, il a mis à peu près toutes les directions de votre bande dessinée. Il y a par ordre d'apparition Moondog, The Residence, Eugène Shelbourne, Capitaine Biffert, Brigitte Fontaine, Vlan Tepes, Colin Mani, Eliane Radigue, Cosy, Fanny Touti, Boris Vian et Peter Evers qui clôt cette galerie. Peter Evers, c'est un vrai cas. Vous finissez vraiment par une énigme des années 80, Arnaud Le Gouefleck.
C'est un des plus grands mystères de l'histoire du rock, je trouve. Peter Evers, bah, c'est quelqu'un qui a essayé de faire de connaître le succès. Il a tenté plusieurs fois. Il a fait des disques inouïs, les uns après les autres.
Un surdoué, en plus.
Un surdoué, un virtuose de l'harmonica aussi.
On lui donne un harmonica une semaine après, il sait en jouer de façon virtuose.
Mais il a appris à jouer de l'harmonica avec l'harmoniciste de Muddy Waters, Little Walter. Donc c'est un personnage complètement à part, mais malheureusement poursuivi par une espèce de destin. La seule chose pour laquelle on le connaît, c'est pour avoir signé In Heaven, un morceau qu'on entend sur la BO de Eraserhead de David Lynch.
David Lynch qui fait appel à lui justement pour la bande originale de son premier film. Ouais.
Et malheureusement, son destin s'achève de manière tragique puisqu'il est assassiné dans un loft un soir et personne ne sait qui a tué Peter Evers, quoi.
Toujours
dans,
pas.
Bah, dans la bande dessinée, on hasarde une théorie qui est plus ou moins celle qui court en fait officiellement, mais bon, c'est pas sûr. Voilà.
Mais quand même, un personnage avec des concerts particuliers, il fait des concerts en couche-culotte, par exemple. C'est quand même des trucs de dingue.
C'est quelqu'un qui ne faisait pas de concessions, disons quoi.
Ça ne s'appelle pas de pas faire de concessions. C'est autre chose, Arnaud Le Gouefleck.
Il aimait les couches-culottes, donc il en a mis une en première partie de Fleetwood Mac, et bon, ça l'a desservi.
Ah bah, ça l'a desservi de façon totale. Quel a été le personnage qui a embrayé l'écriture de cette bande dessinée, pour vous?
C'était des personnages comme Sun Ra,
dont on a parlé,
ou son équivalent, toujours vivant, Eugène Shelbourne, un guitariste américain dont l'œuvre est absolument incalculable. Je pense que personne ne sait combien d'albums Eugène Shelbourne a fait. Lui-même peut-être ne le sait pas. Et ça se compte en centaines, peut-être 500, peut-être 600. Enfin, c'est, je pense, le plus prolifique.
Et quelle est la particularité d'Eugène pour qu'il soit si peu repéré?
Eugène n'a jamais voulu spécialement être repéré, mais il a réussi un crossover très improbable entre musique d'avant-garde, free jazz, musique improvisée et country music, ce qui a priori sont des genres, enfin c'est des genres qui ne se fréquentent pas. Et le moment où il a eu le plus d'audience, c'est quand il y a eu la scène punk hardcore américaine, où il a été encensé comme un iconoclaste qu'il est toujours, et il est toujours en activité. Si les gens se cherchent sur internet, on peut acheter des disques de Eugène Shelbourne fait la semaine dernière par exemple.
Marion, il y a un personnage qui vous a intéressé?
Bon, moi j'étais ravie de retrouver les Tall Dwarfs. Ce groupe néo-zélandais, emmené par Chris Knox. C'est un groupe très, très particulier aussi. Chris Knox, un drôle de personnage avec, sur le label Flying Nun.
C'est tout un monde, c'est toute une époque aussi.
Quelle époque?
C'est les années 80, 90 on va dire, mais surtout les années 80. C'est les premiers, les Tall Dwarfs en Nouvelle-Zélande. C'est les premiers sur cette petite île perdue au fond de, voilà, à enregistrer leur disque. On parlait de la lo-fi tout à l'heure et de la fossette de Dominica. Les Tall Dwarfs faisaient des disques enregistrés où la batterie est une cuillère tapée sur un bol, par exemple, dans la cuisine. Mais la particularité des Tall Dwarfs, c'est qu'ils arrivent à créer des miniatures pop qui sont magiques. C'est un peu les Beatles, les Tall Dwarfs, par certains côtés. Et à faire des tubes. Il y a des tubes des Tall Dwarfs. Bon, plus confidentiels que d'autres.
Mais des tubes quand même.
Des tubes quand même qu'on peut faire écouter à sa grand-mère. Elle trouvera ça super.
Tout à fait fréquentable.
Voilà. Est-ce qu'on peut faire écouter à sa grand-mère Cosy Fanny Tutti? On rappelle qui est Cosy Fanny Tutti. Vous la connaissez, Little Bob?
Non.
Non, mais vous connaissez avec qui elle a travaillé, j'imagine.
Elle a fait partie d'un des groupes les plus inquiétants de l'histoire du rock, les Throbbing Gristle, qui a inventé la musique industrielle. Et c'est un personnage très, très fascinant. C'est une grande créatrice des musiques sombres, des musiques. Puis toujours avec un art de marcher sur le fil de la limite en la dépassant régulièrement.
Film pornographique.
Ouais. Film pornographique, le questionnement sur le corps, on va dire, elle était inspirée par
Performance. Les actionnistes viennois.
Voilà, c'est ce que j'allais. Ouais. Exactement, elle est inspirée par les actionnistes viennois et tout ce côté très sulfureux et très inquiétant, faut dire ce qui est. Et là, actuellement, je crois que son autobiographie vient d'être traduite en français.
Ah, ça y est.
C'est tout récent.
Parce que ça date de 2017, c'est ça, hein.
Ouais. Et là, ça vient d'être traduit. Je sais pas chez quel éditeur, mais c'est tout récent.
Quel est le personnage que vous avez découvert, en fait? Parce que vous en connaissez plein, mais quel est celui qui vous a donné le plus de surprises quand vous l'avez travaillé?
Tous m'ont étonné, on va dire, parce qu'à chaque fois on en connaît certaines choses, mais quand on creuse, évidemment. Townes Van Zandt, par exemple, ce chanteur de country un peu lugubre, c'est Nicolas Moog, le dessinateur, qui m'a fait découvrir ce personnage. Ça m'a vraiment fasciné. Je suis rentré dans un monde dont Nicolas Moog avait la clé. Et on a consacré aussi 2 pages à la scène de Tucson, dans l'Arizona. Nicolas, le dessinateur, a eu son mot à dire aussi, évidemment, sur tous les choix d'artistes. Lui, il fait carrément partie de la scène de Tucson. Il y passe tous les ans un petit peu de temps. Donc vraiment, là, j'ai découvert tout un monde aussi.
Vous-même faites partie de cette histoire underground en tant que musicien, avec votre orchestre préhistorique, votre festival Invisible et votre label Église de la Petite Folie. On peut dire que... Au niveau des intitulés,
vous savez trouver les noms
pour le dire.
Ah bah écoutez, je sais pas.
Le Goéfleck.
En tout cas, j'ai trouvé ça joli. Ouais.
Festival Invisible.
Oui, c'est un festival qu'on a créé avec mon épouse il y a 15 ans. Et enfin, ça fêtera sa 16e édition cette année, en novembre, si tout va bien. Et l'idée, c'était de faire venir à Brest, puisqu'on est très excentré, comme vous savez, de faire venir des artistes qui nous fascinaient, qu'on rêvait de rencontrer. On a pu faire venir un certain nombre, par exemple, de figures qu'on retrouve dans le
livre, bouquin. J'imagine, ouais.
Jonathan Richman est venu à Brest au Festival Invisible, par exemple. Le premier batteur de Frank Zappa, Jimmy Carl Black, est venu. Gene Shadbourne est venu. Faust, grand groupe de rock allemand, est venu, etc. Donc en fait, on a créé ce festival pour faire venir à nous un peu.
Vous avez l'air insolide, hein, quand même, pour accueillir tous ces personnages étranges les uns que les autres.
C'est du boulot, mais ce sont des gens beaucoup plus faciles que ce qu'on croit. Hein.
Vous avez une formation de psychothérapeute?
Non, il n'y a jamais eu de problème. Peut-être moins que dans d'autres concerts. Quoi.
Un mot sur le dessin de Nicolas Moog. Ouais. Parce que sur la bande dessinée avec Dominica, c'est avec Olivier Ballet. C'est pas du tout, là, on est dans l'illustration et tout. Là, c'est un dessin qui fait penser à celui de Charles Burns, ou alors de Thierry Guittard en France. Vous aviez envie de ce noir et blanc, c'était quelque chose qui...
C'est un choix qui s'est imposé assez vite à nous, et je pense qu'on était tous les deux... Moi, j'étais frappé par sa capacité, à Nicolas Moog, de passer d'un dessin parfois très comics à des portraits très minutieux, presque des portraits de graveur.
Oui, très expressionniste.
Très expressionniste. Et donc, je pense qu'on en a parlé un peu, moi, il me faisait penser à Crumb. Quand Crumb parle des musiciens de blues, quand il parle de Charlie Patton, par exemple, il est dans un dessin très fouillé, comme ça, un dessin de graveur, et je trouve que c'était la bonne manière de de procédés pour parler de musique.
Il y a encore des personnages, par exemple, dans la scène actuelle, que vous auriez envie de mettre dans un volume 2. Il y a des personnalités fortes qui sortent encore comme ça aujourd'hui.
Je pense qu'il y en a plein. Je pense qu'il y en a plein qui sont en construction. Tout à l'heure, on écoutait Mansfield Tia, par exemple. Je pense que Rebecca Warrior, c'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Dès qu'on commence à suivre un petit peu, à tirer le fil de sa carrière, on se rend compte déjà qu'il y a pas mal de choses à raconter. Il y en a plein. Au Festival Invisible, on en a invité un certain nombre, comme ce musicien insensé qui s'appelle Harrington de Dioniso, qui mélange le blues de Captain Beefheart et la musique indonésienne, qui est venu plusieurs
Captain
fois au
Beefheart.
Festival.
Voilà.
C'est vous adorez
Captain Beefheart. Oui.
Ah bah là, il est dans et le portrait est très éloquent sur qui est Captain Beefheart. Quelques mots peut-être sur ce personnage.
Bah, Captain Beefheart, c'était quelqu'un qui a osé une version cubiste du blues, quoi. Il a démonté, remonté le blues un peu à sa manière. Dans le livre, il y a les 10 commandements du guitariste selon Captain Beefheart, et ça vaut le détour parce que c'est que des commandements non euclidiens. Comme quoi, il faut mettre une soucoupe d'eau à côté de sa guitare la nuit pour qu'elle s'abreuve. Comme quoi, il faut avoir un chapeau sur la tête, sinon on perd 80% de la chaleur de son corps. Enfin, c'est que des conseils de chaman.
J'ai repris deux titres de Captain Beefheart sur les derniers et avant-derniers disques.
Ouais. Et le dernier disque, je rappelle, Little Bob, il s'appelle We Need Hope. Merci à vous. Merci.
Merci. Et
bon
merci
retour
de m'avoir
au Havre.
Accueilli.
Deux heures de route hein, maintenant, vous attendez.
Ouais, c'est pas grave, je suis plutôt noctambule.
Parfait. Arnaud Logoué-Fleck, la bande dessinée Underground, Rockers Maudits et Grande Prêtresse du Sang avec Nicolas Moog. C'est aux éditions Glénat. Marion.
Dominique à la Fossette, c'est un livre signé par Thierry Jourdain, Pierre Lemarchand, aux éditions Densité.
Demain, on a rendez-vous avec Sheila, venue d'ailleurs, et le photographe Tony Franck. On lui donne entre autres la pochette de Melody Nelson. Marion.
Et bien demain, c'est les nouveautés nouvelles avec un jour d'avance, 300 à découvrir.
Côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Alors, à demain.
Oh, c'était formidable.
Côté.
Oui.
Club.
Bye, bye.